Ceux qui suivent la rencontre de Paré, nous avons aujourd'hui une assemblée qui a bien augmenté. Ce sont les pèlerins du diocèse de Laval qui nous rejoignent aujourd'hui, avec qui nous avons fait le pèlerinage à Romé, et qui se joignent alors à nous pour cette partie-là des rencontres de Paré le Monial. Alors, bienvenue. Nous allons nous confier à Marie pour cet enseignement du soir. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce matin, nous avons longuement médité avec des paroles de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort sur sa théologie, sur sa spiritualité, sur son approche de la dimension mariale et sur toutes les choses extrêmement intéressantes et inspirantes qu'il nous a léguées. Aujourd'hui, cette thématique imprègne toute notre rencontre de Paris le Monial, qui est le cœur de Marie. Le cœur immaculé de Marie, aussi le cœur immaculé de Marie en tant qu'uni au cœur de Jésus. Nous allons le méditer aujourd'hui avec Jean-Paul II ce soir. Saint Jean-Paul II. Alors, pour faire un peu la transition avec l'enseignement de ce matin, nous allons dire quelques mots de la manière dont Jean-Paul II, alors bien avant qu'il soit pape déjà, a reçu l'enseignement de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort comme une sorte de révélation à un moment donné de sa vie. La première rencontre entre Karol Wojtyla et Louis-Marie se situe à l'adolescence de Wojtyla. Grâce à un laïc, un saint homme, tailleur de son métier, Jan Tiranowski, que le jeune Karol Wojtyla admirait, comme tous les étudiants de Cracovie qui faisaient partie un petit peu de ce cercle qui venait entourer ce tailleur dans son échoppe, où il donnait des véritables enseignements, mais aussi des méditations, et où il avait aussi des initiatives concernant la récitation du rosaire. Un laïc très humble, très saint. Alors le cardinal Dziwisz, l'ancien secrétaire de Jean-Paul II, dit dans un livre que Jean-Paul II aurait bien voulu béatifier ce tailleur, Tiranowski. Il regrettait de ne pas l'avoir fait, effectivement. Alors je m'excuse de toujours, je la ramène parfois un petit peu à moi. J'ai une relation spéciale avec Jan Tiranowski, que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il est mort exactement le jour où moi je suis né. Voilà. Je suis né le matin et il est mort l'après-midi. Donc, à peine il a vu le phénomène arriver au monde, il a dû se dire, oh, celui-là, il va falloir avoir un œil sur lui. Voilà. Donc, il est mort effectivement le 15 mars 1947, n'ayant pas pu assister, parce que déjà gravement malade, à l'ordination de Karol Wojtyla en novembre 1946. Il était l'initiateur du rosaire vivant. Voilà, Tiranowski, sa spiritualité mariale, regroupant 15 jeunes gens. Il s'agissait de réciter le rosaire de façon continue, sans interruption, une permanence. Et les 15 jeunes se relayaient, chacun récitant sa part de rosaire. À un moment donné, il fallait que ça dure jour et nuit. Il avait ressenti l'inquiétude, Tiranowski, de Karol sur l'importance qu'il donnait à sa prière à Marie, que Tiranowski donnait à sa prière à Marie. Karol se posait des questions. Le jeune Karol se posait des questions. Est-ce que toute cette dévotion à Marie n'était pas au dépens de la dévotion qu'on devait donner en priorité à Jésus? Et c'est justement à cette occasion-là que Tiranowski remit au jeune Carole, qui peut-être était déjà plus qu'un adolescent, disons vraiment un étudiant déjà, qui lui a donné le traité de la vraie dévotion à Marie, de Grignon de Montfort. Et selon ce que confie le futur Jean-Paul II lui-même, j'ai trouvé la réponse à mes doutes en lisant ce livre. Alors ce livre ne va pas le quitter. On sait, c'est un épisode un peu populaire de la vie du futur Jean-Paul II. Il a travaillé dans des usines, les usines Solvay, usines de soude où il travaille. Alors il porte le livre sur lui-même, toujours dans sa pochette ou dans sa vareuse. Il ajoutera même qu'il y a des taches de chaux sur la couverture de ce livre. La dévotion mariale du jeune Carole fait place à une nouvelle attitude, une dévotion venue du plus profond de sa foi. Ce sont ses propres paroles, comme du cœur même de la réalité trinitaire et christologique. Voici les confidences que Jean-Paul II, bien plus tard, a fait lui-même à André Frossard, dans un de ses premiers livres intitulé « N'ayez pas peur ». Donc très peu de temps après la première visite de Jean-Paul II à Paris, en 1980. « Plus ma vie intérieure a été centrée sur la réalité de la rédemption, plus l'abandon aimant à Marie, dans l'esprit de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, m'est apparu comme le meilleur moyen de participer avec fruit et efficacité à cette réalité, la réalité de la rédemption. » Pour y puiser et en partager avec les autres les richesses inexprimables. Ma dévotion mariale, poursuit Jean-Paul II, est partie intégrante de ma vie intérieure et de ma théologie spirituelle. Et en l'an 2000, de façon très officielle, Jean-Paul II affirme « Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort constitue pour moi une référence significative qui m'a illuminé dans les grands moments de ma vie. » D'où d'ailleurs le choix, évidemment, de sa devise pontificale, qui vient de Grignon de Montfort, « Totus tuus ». Qui vient de Grignon de Montfort, mais ces paroles de Grignon de Montfort viennent en fait du petit psautier de la Vierge, qui est quelque chose de plus ancien et dans lequel il a puisé cette inspiration. « Je suis tout à toi, tout ce que j'ai et tiens, sois mon guide en tout. » Et cela fait partie donc du traité de Saint-Louis-Marie, traité de la vraie dévotion de la Vierge Marie. Jean-Paul II a vécu ce don de lui-même par Marie jusqu'au dernier instant de sa vie, comme on le lit dans son testament. Son testament qu'on a découvert, enfin qu'on a publié plutôt, exactement 2 jours après sa mort, en 2005. Et voilà ce qu'il écrit. Il commence par une citation de l'évangile de Matthieu. « Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. » Ces paroles, dit Jean-Paul II dans son testament, ces paroles me rappellent le dernier appel qui aura lieu au moment où le Seigneur le voudra. Je désire le suivre et je désire que tout ce qui fait partie de ma vie terrestre me prépare à ce moment. Je ne sais pas quand celui-ci viendra. Mais comme tout, je dépose également ce moment entre les mains de la mère de mon maître, totus tuus. Entre ces mêmes mains maternelles, je laisse tout et tous ceux avec qui ma vie et ma vocation m'ont mis en relation. Entre ces mains, je laisse en particulier l'Église et également ma nation et toute l'humanité. Il a donc vécu cette devise mariale qui était la sienne, déjà du temps où il était archevêque de Cracovie. Il l'a vécu jusqu'à ses dernières conséquences, vraiment jusqu'au bout, consciemment pour remettre tout dans les mains de Marie en tant que pape. Et l'immense responsabilité, l'immense champ de mission qui a été le sien pendant près de 27 ans de pontificat. Si on revient au livre de Jean-Paul II, à l'interview avec André Frossard, voilà ce que dit Jean-Paul II à propos de Grignion de Montfort. On sait que l'auteur du traité définit sa dévotion comme une forme d'esclavage. On en a parlé ce matin. On a dit que ça pouvait un petit peu gêner, puis on a essayé d'expliquer. Le mot peut heurter nos contemporains. Pour moi, je ne vois là aucune difficulté. Je pense qu'il s'agit là d'une sorte de paradoxe, comme on en relève souvent dans les évangiles. Les mots « Saint-esclavage » signifiant que nous ne saurions exploiter plus à fond notre liberté, justement. Le plus grand des dons que Dieu nous ait fait. Car la liberté se mesure à la mesure de l'amour dont nous sommes capables. Ce n'est que dans le don de nous-mêmes, dans l'amour, que nous devenons vraiment libres. Et c'est pour ça que ce saint esclavage, comme je le disais ce matin, qui est un esclavage qui mène à la liberté, puisque nous nous rendons esclaves de celui qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, et esclave aussi de celle qui a dit « Je suis la servante du Seigneur ». Et donc cet esclavage est le garant, paradoxalement, ça ne marche qu'avec Dieu et avec la Vierge Marie, c'est le garant de notre plus grande liberté, justement, parce qu'il nous libère de tous les autres esclavages. L'esclavage du péché, l'esclavage du démon, l'esclavage des idoles, l'esclavage des soucis terrestres, de l'agitation et de toutes sortes, des séductions et tout. Là, nous sommes vraiment esclaves et de maîtres qui sont très tyranniques, qui ne sont pas des serviteurs. Hein, ça me rappelle, mais ça c'est devenu probablement très classique, j'enfonce des portes ouvertes, mais on a pu dire que Internet peut être un merveilleux serviteur ou un abominable tyran. Voilà, tout dépend comment on s'en sert. Si on lui donne sa fonction de serviteur, on reste libre. Si on se laisse tyranniser par lui, on est complètement esclave. Donc la liberté se mesure à la mesure de l'amour dont nous sommes capables. Et donc, pour Jean-Paul II, à la suite de Grignion, le plus grand acte de liberté que nous puissions faire, c'est de nous soumettre, de nous livrer, de nous rendre en fait esclaves du Seigneur par Marie, par la remise de tout notre être. Par la remise de tout notre être, c'est-à-dire notre cœur, notre vie, nos actes, entre les mains de Marie, que nous mettons entre les mains de Marie, pour qu'elle nous donne à Jésus. Et nous ne faisons rien, nous ne sommes rien sans elle. Sachant qu'en se tournant vers Marie, on se tourne vers Jésus. Et que c'est vers lui que nous nous tournons, par Marie. Dans la grande consécration, d'ailleurs, Louis-Marie Grignion de Montfort dit, la consécration mariale, « Ô Mère admirable, présentez-moi à votre cher fils en qualité d'esclave éternel, afin que m'ayant racheté par vous, il me reçoive par vous. » Saint Louis Grignion de Montfort dit aussi « Vous ne pensez jamais à Marie, jamais, sans que Marie en votre place ne pense à Dieu. Vous ne louez ni n'honorez Marie sans que Marie avec vous ne loue et n'honore Dieu. » Ainsi, comme le disait encore Jean-Paul II, « Quiconque s'est consacré à Marie lui appartient de façon spéciale. Il est devenu comme un sanctuaire de la très sainte Vierge Marie. » Alors, selon la consécration, nous le remarquons aussi, de saint Louis Grignion de Montfort, nous consacrons vraiment tout, nos corps, nos âmes, nos biens intérieurs, extérieurs, la valeur de nos bonnes actions, passées, présentes et futures, et même donc aussi notre éternité. Donc, Grignon de Montfort a libéré Carole Wojtyla, futur Jean-Paul II, de tout ce qui pouvait un peu le freiner dans sa dévotion mariale, par souci parfois théologique. Nul doute que, je ne connais pas bien l'histoire de la rédaction de Lumen Gentium et du dernier chapitre consacré à Marie, mais nul doute que Carole Wojtyla, qui était donc un des pères du Concile, a dû certainement contribuer fortement aux magnifiques pages très éclairantes et très précises du Concile Vatican II sur la vraie théologie de la dévotion mariale. Non pas une dévotion superstitieuse ou envahissante, il faut qu'elle soit bien comprise. Il fallait aussi, déjà le pape Paul VI avait déjà, enfin, après le Concile, avait amené certains correctifs à certaines dévotions mariales. Et comme je l'ai dit ce matin, donc une dévotion qui fait ressortir encore plus l'unique médiation du Christ, unique médiateur entre Dieu et les hommes. Alors maintenant, dans la deuxième partie, qui sera assez développée, ce sera moins un enseignement qu'une méditation. On va se laisser porter par des paroles de Jean-Paul II, que je vais commenter de temps en temps, voire faire remarquer certaines résonances scripturaires ou autres. Mais comme ce matin déjà, j'ai voulu accentuer cet enseignement de Grignon de Montfort sur une des dimensions de l'Avent, à savoir que nous attendons aussi, nous n'attendons pas seulement Noël, nous attendons la deuxième venue du Christ dans la gloire, et le temps de l'Avent est là pour ça aussi, de veiller, d'être vigilant, pour être prêt à l'accueillir quand il viendra dans la gloire, et signera ainsi la fin de l'histoire et du monde. J'ai voulu le faire avec un texte qui finalement n'est pas très connu et qui a une immense importance spirituelle du point de vue historique dans le pontificat de Jean-Paul II. En présence de 800 évêques du monde venus à Rome pour le jubilé des évêques pendant l'an 2000, le grand jubilé de l'an 2000, Saint Jean-Paul II a consacré depuis la place Saint-Pierre, dans une ferveur intense, le monde au cœur immaculé de Marie. Ça s'est passé le 8 octobre de l'an 2000. En consacrant le monde, il est évident qu'il consacrait le nouveau millénaire qui commençait, avec tout ce que ce millénaire apporterait. Jean-Paul II avait un extraordinaire sens de l'histoire, mais aussi des signes des temps et des symboles. Cette consécration en l'an 2000 a dû pleinement remplir son cœur de prophète, de pasteur, de mystique, on pourrait dire de docteur. Un jour, il sera peut-être docteur de l'Église, lui aussi. Donc, consécration du monde au cœur immaculé de Marie au seuil du troisième millénaire. Et cet acte se situe dans ce que Jean-Paul II a appelé un très grand temps de l'Avent à l'occasion du jubilé de l'an 2000. Il disait, nous avançons dans ce temps de l'Avent, alors au sens très large, bien au-delà du temps liturgique de l'Avent, de ce temps de l'Avent qui nous sépare de la venue en gloire du Seigneur. Jean-Paul II n'a jamais fait de prophétie disant quand ça se passerait. Personne n'est capable de le dire. Mais il peut y avoir certains moments où on attend avec plus d'intensité, à cause des symboles qui nous entourent, des événements aussi, parfois dramatiques, qui nous entourent. Et puis tout à l'heure, pendant le pèlerinage à Romain, nous avons un petit peu médité sur quelques paroles de sœur Lucie. Nous savons à quel point le pontificat de Jean-Paul II a été marqué par Notre-Dame de Fatima, qu'il a découvert plus tôt, surtout comme pape, parce qu'avant, il n'était pas très attiré, ou en tout cas, il ne connaissait pas bien. Il était beaucoup plus ancré et enraciné dans les pèlerinages mariaux de sa nation, Częstochowa, ou un autre grand sanctuaire marial près de Cracovie. Mais il ne connaissait pas très bien Fatima. Tout a commencé après l'attentat du 13 mai 1981, où il a fait venir les documents, y compris les documents secrets, à l'hôpital pour les étudier. Il est allé 3 fois à Fatima, 1 an après l'attentat, pour rendre grâce, parce que la Sainte Vierge l'avait sauvé de la mort. 10 ans après l'attentat, en 1991, et enfin en l'an 2000, donc avant la date qui nous intéresse ici aujourd'hui, le 13 mai 2000, pour la béatification des 2 petits voyants, et pour rencontrer une ultime fois Sœur Lucie, qui devait mourir comme lui, la même année que lui, en 2005. Là où je ne suis pas complètement sûr, mais je crois que oui, je suis presque sûr, mais pas complètement, est-ce que la statue de Notre-Dame de Fatima avait été apportée à Rome pour ce 8 octobre de l'an 2000, pour que cette consécration ait lieu devant elle, ce qui est fort possible. Jean-Paul II avait déjà fait venir plusieurs fois la statue de Fatima sur la place Saint-Pierre, en d'autres occasions. Alors voilà cette longue prière, mais d'une intensité prophétique et qui nous concerne aujourd'hui, et qui concerne le monde d'aujourd'hui. Femme, voici ton fils. Parole de Jésus à la Vierge Marie, à propos de Jean, le disciple bien-aimé, au pied de la croix. Femme, voici ton fils. Tandis qu'arrive à son terme l'année jubilaire de l'an 2000, au cours de laquelle toi, ô Mère, tu nous as offert à nouveau Jésus, le fruit béni de ton sein très pur, le Verbe fait chair, le Rédempteur du monde. Donc là, vous voyez, Jean-Paul II actualise les 2000 ans de la rédemption, de l'incarnation, là il actualise. Il dit carrément que la Vierge a, comme actualisé, elle a de nouveau donné Jésus au monde. Elle a de nouveau enfanté, bien sûr, spirituellement, et dans l'ordre mystique cette fois-ci, elle a de nouveau enfanté pour notre monde actuel et pour le millénaire commençant. Donc, au cours de laquelle, toi, tu nous as offert à nouveau Jésus, le fruit béni de ton sein très pur, le Verbe fait chair, le Rédempteur du monde. Ces paroles, femme, voici ton fils, se font pour nous particulièrement douces. Paroles qui nous renvoient à toi, te constituant notre mère. En te confiant l'apôtre Jean, et avec lui les fils de l'Église, et même tous les hommes, le Christ, loin d'atténuer son rôle exclusif de sauveur du monde, le confirmait. Tu es la splendeur qui n'ôte rien à la lumière du Christ. Alors il insiste un petit peu là-dessus, parce qu'il y avait toujours, même en l'an 2000, et la suite du Concile, toujours ces critiques, soit parfois de théologiens venus du protestantisme, soit même de catholiques qui craignaient qu'il y avait toujours un côté un peu trop excessif avec ce pape polonais très marial, etc. Or lui, c'est vraiment en théologien qu'il parle ici, dans une théologie très sûre. Donc, le Christ, loin d'atténuer son rôle exclusif de sauveur du monde, le confirmait. Tu es la splendeur qui n'ôte rien à la lumière du Christ, car tu existes en lui et par lui. En toi, tout est fiat. Fiat, c'est-à-dire que ta volonté soit faite. C'est en fait, pour dire un autre mot, en toi, Marie, tout est amen. Oui, assentiment. Consentement perpétuel. Tu es l'Immaculé, tu es transparence et plénitude de grâce. Voici donc tes enfants rassemblés autour de toi, à l'aube du troisième millénaire. Aujourd'hui, par la voix du successeur de Pierre, à laquelle s'unissent celles de nombreux pasteurs rassemblés ici, de toutes les parties du monde, l'Église cherche à se réfugier sous ta protection maternelle et implore avec confiance ton intercession face aux défis de l'avenir. Nous sommes donc évidemment inclus dans cette prière, et les années et les siècles à venir aussi. Jean-Paul II voyait très loin. Il embrassait l'ensemble du troisième millénaire, en quelque sorte. En cette année de grâce, de nombreuses personnes ont vécu ou vivent actuellement la joie surabondante de la miséricorde que le Père nous a donnée dans le Christ. Dans les églises particulières, répandues à travers le monde, et plus encore ici, au centre de la chrétienté, les catégories les plus diverses de personnes ont accueilli ce don. Ici même, l'enthousiasme des jeunes a retenti. C'est un fait. Quelques mois auparavant, il y avait les JMJ, près de Rome, sur le lieu dit Tor Vergata. 2 millions de jeunes étaient là, dans un enthousiasme inconcevable, mais au cours d'une liturgie pleine de symboles, étonnante, vraiment le passage d'un millénaire à l'autre. Tout était symbolique, la longue litanie des saints qui a commencé avec les saints les plus antiques de l'époque immédiatement post-christique, pour aboutir aux saints les plus récemment béatifiés ou canonisés par Jean-Paul II. Comme c'était donc en l'an 2000. Et puis l'allumage de 5 grands cierges représentant les 5 continents. Et puis quelques jeunes, chacun représentant des continents, venant allumer une lumière et la propageant dans la foule. De sorte qu'en quelques secondes, des millions de petites lumières ont brillé comme un signe extraordinaire d'espérance. Donc ces JMJ ont été historiques, étonnantes. Ici même, donc, l'enthousiasme des jeunes a retenti. Ici même s'est élevé le cri implorant des malades. Ici même sont venus des prêtres et des religieux, des artistes et des journalistes, des travailleurs et des hommes de science, des enfants et des adultes. Et tous ont reconnu dans ton Fils bien-aimé le Verbe de Dieu fait chair en ton sein. Obtiens pour nous, ô Mère, par ton intercession, que les fruits de cette année ne soient pas perdus, et que les germes de grâce se développent jusqu'à la pleine mesure de la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. En fait, il confie tout à Marie, parce que Marie, idéalement, sera la gardienne de toutes les grâces reçues. De même qu'elle gardait fidèlement en son cœur les paroles ou les événements qui concernaient son fils, on le dit à 2 reprises dans l'évangile de Luc, au moment de la naissance de Jésus, et puis un peu plus tard, après le recouvrement de Jésus au temple, sa mère gardait tout cela fidèlement dans son cœur, tous ces événements, et les méditait dans son cœur. Elle en est la gardienne. Donc Jean-Paul II demande à Marie d'être la gardienne de toutes les grâces reçues. Il remet vraiment les fruits de ce jubilé à la Vierge Marie, pour que par elle, il puisse arriver à pleine maturité. Aujourd'hui, nous voulons te confier l'avenir qui nous attend, te demandant de nous accompagner sur le chemin. Nous sommes les hommes et les femmes d'une époque extraordinaire, aussi exaltante que riche de contradictions. Aujourd'hui, l'humanité possède des moyens de puissance inouïs. Elle peut faire de ce monde un jardin ou le réduire en un amas de cendres. Notre humanité a acquis des capacités extraordinaires d'intervention sur les sources mêmes de la vie. Elle peut en user pour le bien, dans le cadre de la loi morale, ou bien céder à l'orgueil aveugle d'une science qui n'accepte pas de limites, au point de bafouer le respect dû à tout être humain. Aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité est à une croisée de chemin, et une fois encore, le salut est entièrement et seulement aux Vierges Saintes dans ton Fils, Jésus. Cette prière garde évidemment toute son efficacité et sa vigueur et son actualité. Et lorsque les événements du monde nous font peur parfois, ou les choix de société, ou les options sociétales ou autres, ou alors avec une autre forme de violence inouïe, nos frères chrétiens sont massacrés, martyrisés, pourchassés, les églises incendiées. N'hésitons évidemment pas à nous tourner constamment vers la Vierge Marie, mais ça je pense que nous le faisons par réflexe, mais implorons l'intercession de Jean-Paul II. Cette prière qu'il a faite avec une telle ferveur le 8 octobre 2000, de l'an 2000, vous pensez bien qu'il continue à la faire au ciel, avec une ferveur renouvelée, ayant les yeux, comme tous les saints, la communion des saints sur ce monde, et offrant sans cesse l'actualité à Jésus par la Vierge Marie. Nous sommes à une croisée de chemin. Et le salut, une fois encore, ne peut être réalisé que dans ton Fils Jésus, ô Vierge Sainte. Alors maintenant, il va faire un pas de plus, qui est aussi le nôtre, surtout au cours de ce week-end. C'est pourquoi, ô Mère, comme l'apôtre Jean, nous voulons te recevoir chez nous, pour que tu nous apprennes à nous conformer à ton Fils. Femme, voici tes fils. Donc nous nous souvenons comment l'apôtre Jean, il est dit dans l'évangile de Jean, dès ce moment-là, le disciple prit Marie chez lui. Et donc Jean-Paul II maintenant dit, femme, voici tes fils. Toute l'humanité du millénaire commençant. Nous sommes ici devant toi pour confier à tes soins maternels nous-mêmes, l'Église, le monde entier. Implore pour nous ton Fils bien-aimé, afin qu'il nous donne en abondance l'Esprit Saint. L'Esprit de vérité qui est source de vie. Donc c'est Marie qu'il nous faut invoquer pour recevoir l'Esprit Saint. Comme dit toute une tradition de l'Église, un père de l'Église, là où est la Vierge Marie, l'Esprit Saint fait irruption. Là où elle est invoquée, l'Esprit Saint vient avec puissance. L'Esprit te couvrira de son ombre. L'Esprit Saint viendra sur toi, dit l'archange Gabriel à Marie au moment de l'Annonciation. Donc, implore pour nous ton Fils bien-aimé afin qu'il nous donne en abondance l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui est source de vie. Accueille-le pour nous et avec nous. Donc l'Esprit Saint. Accueille-le pour nous et avec nous. Comme au temps de la première communauté de Jérusalem. Rassemblée autour de toi le jour de la Pentecôte. Marie était présente au Cénacle pour la venue de l'Esprit Saint. Donc, accueille cet esprit pour nous et avec nous, comme au temps de la première communauté de Jérusalem, rassemblée autour de toi, le jour de la Pentecôte. En fait, Jean-Paul II prie qu'à l'occasion de ce jubilé de l'an 2000, il y ait une nouvelle Pentecôte, comme Jean 23, en son temps, l'avait voulu pour le Concile Vatican II. Que l'Esprit ouvre les cœurs à la justice et à l'amour. Qu'il conduise les personnes et les nations. À la compréhension réciproque. Et à une ferme volonté de paix. Nous te confions tous les hommes, à commencer par les plus faibles, les enfants non encore venus au jour et ceux qui sont nés dans des conditions de pauvreté et de souffrance. Nous te confions les jeunes à la recherche de sens, les personnes privées de travail, et celles qui sont éprouvées par la faim et la maladie. Nous te confions les familles désagrégées, les personnes âgées privées d'assistance, et tous ceux qui sont seuls et sans espérance. Et maintenant, la conclusion de cette longue prière. Ô Mère, toi qui connais les souffrances et les espérances de l'Église et du monde, assiste tes enfants dans les épreuves quotidiennes que la vie réserve à chacun. Et fais que, grâce aux efforts de tous, les ténèbres ne l'emportent pas sur la lumière. À toi, aurore du salut, nous confions notre marche dans le nouveau millénaire, afin que sous ta conduite, tous les hommes découvrent le Christ, lumière du monde et unique sauveur, qui règne avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. Donc voilà cette prière qui garde évidemment une importance actuelle et qui nous permet de mieux comprendre aussi le cœur immaculé de Marie, uni au cœur de Jésus. Je pense que là maintenant, même si nous avons déjà dit tout un chapelet en allant à Romet, on peut, dans l'esprit du pape et de Grignon de Montfort, que nous avons à notre manière célébré ce matin, et de Lucie de Fatima, qui nous a accompagnés pendant notre chapelet à Romet, dire encore une dizaine pour l'Église, pour le monde, pour les intentions du pape François, pour chacun de nous, pour notre histoire contemporaine, par l'intercession, donc, bien sûr, de Jean-Paul II. Nous pouvons rester comme nous sommes ici. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous, pécheurs.
Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous, pécheurs.